De bons souvenirs d'enfance, nous allions chez grand-mère le jour de Thanksgiving. Grand-mère vivait dans le sud-est de Rochester, près du collège communautaire de Rochester. Je me souviens que lorsque vous entriez chez elle, vous aviez l'impression de sentir l'odeur de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille. Je me souviens que vous entriez, que vous enleviez votre manteau et que vous partagiez le temps avec vos proches. Vous savez, beaucoup d'entre eux n'avaient pas été vus depuis plusieurs mois. Vous preniez plaisir à faire connaissance avec chacun et à savoir ce qui s'était passé dans leur vie. C'est intéressant, car les hommes avaient tendance à traîner dans le salon pour regarder le match de football. Les femmes avaient tendance à traîner dans la cuisine et nous, les enfants, étions au sous-sol. Et c'est intéressant, quand j'y repense, les hommes étaient généralement dans le salon à se plaindre des Vikings. Les femmes adultes étaient généralement dans la cuisine à se plaindre des hommes, puis les enfants étaient au sous-sol à se plaindre des parents. Donc, eux, mais ensuite il y a eu ça, vous savez, l'anticipation montait et puis finalement ils ont dit, c'était l'heure de manger, n'est-ce pas? Et il y a eu cette course folle à l'étage pour aller chercher la nourriture. Et c'était presque comme si nous avions rempli nos assiettes comme si nous n'allions plus jamais manger. Et vous savez, et vous mangez tellement que vous pouviez à peine bouger. Et je me souviens juste d'avoir traîné avec les cousins et de nous être tellement amusés. Et puis finalement, plus tard dans la soirée, il était temps de partir et nous rentrions à la maison avec environ 2 semaines de reste de dinde. Mais vous savez, quand je repense à mon enfance, je pense à l'ironie. Et l'ironie est la suivante. À Thanksgiving, on ne passait pas beaucoup de temps à être reconnaissant. Personnellement, à Thanksgiving, je pratique rarement la gratitude. C'est presque comme si c'était devenu autre chose. C'était une question de football, c'était une question de nourriture, c'était une question de chasse. Il s'agissait de toutes ces autres choses et j'ai oublié quel était le but de Thanksgiving. Eh bien, Webster dit que le but de Thanksgiving est que ce soit un jour désigné pour rendre grâce pour la bonté divine. En pensant à vos célébrations de Thanksgiving, avez-vous oublié de remercier Dieu? Avez-vous oublié de dire au Seigneur ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Rappelons-nous, en cette semaine de Thanksgiving, que le but de Thanksgiving est de rendre grâce. Que le but de Thanksgiving est de vivre grâce. Vous savez, il y avait une chanson quand j'étais enfant. Elle s'appelait Count Your Blessing. Et elle parle de compter ses bénédictions et de ce pourquoi on est reconnaissant. Maintenant, puisque Thanksgiving est une question de Thanksgiving, je voulais juste nous faire faire un petit quiz, d'accord? Et je veux que nous réfléchissions à notre degré de gratitude. D'accord? Êtes-vous prêt? Dites Amen. Très bien, c'est parti. De quoi avez-vous tendance à parler le plus? De vos bénédictions ou de vos déceptions? Si je devais écouter vos conversations cette semaine, qu'est-ce que j'entendrais? Aurais-je pu vous entendre parler de ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou plutôt de vos déceptions? Deuxièmement, êtes-vous du genre à vous plaindre? Vous vous plaignez toujours et vous critiquez constamment dans votre situation ou chez les autres. Je dis souvent aux gens que se plaindre n'est pas un don spirituel. Pour certains d'entre vous, c'est tout ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous pouvez vous plaindre, être critique, ce n'est pas un don spirituel. Mais il est facile de tomber dans cet état d'esprit critique et de se plaindre, et nous le faisons sans même nous en rendre compte. Vous savez, la Bible dit dans Philippiens 2h14, « Faites tout sans murmure ni contestation. » N'est-ce pas un excellent verset sur l'éducation des enfants? Faites tout sans enfants, faites tout sans vous disputer ni vous plaindre. Troisièmement, êtes-vous satisfait de ce que vous avez ou toujours insatisfait en voulant plus? Je pense que l'un des plus grands mensonges de Satan est « Si j'avais juste ça, je serais heureux. » Si j'avais juste ça, je serais heureux. Plus grand, plus brillant, plus éclatant et plus neuf. Et l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture, n'est-ce pas? Si j'avais juste ça, je serais heureux. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux, « Ne vous laissez pas entraîner par l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez. » Parce que Dieu a dit, « Jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. » Trouvez-vous plus facile de compter vos bénédictions ou vos afflictions? Encore une fois, je ne dis pas que nous devons ignorer nos afflictions. Bien sûr que non. Et je ne dis pas que nous devons ignorer nos sentiments difficiles et tout ça, mais sur quoi nous concentrons-nous? Exprimez-vous votre gratitude envers les autres lorsqu'ils vous ont aidé, ou le considérez-vous comme acquis? Pensez à quelqu'un qui vous a influencé, à quelqu'un qui vous a aidé, à quelqu'un qui a été là pour vous, qui a cru en vous. L'avez-vous déjà remercié? Thanksgiving ne consiste pas seulement à remercier Dieu, mais aussi à remercier les autres. J'ai lu une fois que, vous savez, beaucoup de gens ont faim de nourriture, mais beaucoup plus de gens ont simplement faim d'appréciation. Enfin, les autres diraient-ils que vous êtes une personne reconnaissante? Donc, si je devais interviewer votre conjoint, vos enfants ou votre chien, diraient-ils que vous êtes une personne reconnaissante? C'est plutôt calme ici. Thanksgiving, c'est une question de remerciement. Vivre. Il s'agit de développer une attitude de gratitude. Je me souviens avoir lu une fois que l'émotion la plus toxique que nous puissions ressentir est la vengeance, l'amertume et le manque de pardon. L'émotion la plus curative est la gratitude. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux développer une attitude de gratitude, et ajouter que la gratitude est comme un muscle. C'est quelque chose que, par la grâce de Dieu, vous et moi pouvons développer en y travaillant. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est partager avec vous trois façons de développer une attitude de gratitude. Et la première façon est de chanter au Seigneur. Dites chanter.
Chanter.
Maintenant, dans le psaume 147, l'auteur nous dit ce qui apporte de la joie à Dieu. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui apporte de la joie à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Eh bien, ce verset nous dit ce qui plaît à Dieu lorsque nous lui faisons confiance et lorsque nous l'adorons. Lorsque nous faisons véritablement confiance au Seigneur et que nous l'adorons, cela lui apporte de la joie. Et puis le psaume 147 commence et se termine par la même phrase. C'est un peu comme le psaume 147. Les livres se terminent par une rangée de livres. Ils commencent et finissent par la même phrase. Et voici cette phrase. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Et puis au verset 7, il nous partage quelques façons de louer le Seigneur. Dans le psaume 14 à 7, il est dit. Chantez vos actions de grâce pour lui. Chantez des louanges à notre Dieu. Chanter est une façon d'exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Maintenant, si nous regardons le psaume 100, l'auteur nous invite à entrer joyeusement dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas seulement une invitation pour les gens d'autrefois, mais c'est aussi une invitation pour nous aujourd'hui. Et puis il est dit ceci, poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous tous, habitants de la terre, adorez le Seigneur avec quoi? Avec allégresse. Venez devant lui avec des chants de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui, nous sommes son peuple, les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et louez son nom. Car l'Éternel est bon, et sa miséricorde durera toujours. Sa fidélité se perpétue de génération en génération. Ainsi, lorsque nous méditons sur la bonté de Dieu, lorsque nous réfléchissons à l'honneur que représente le fait de pouvoir l'adorer, nous sommes remplis de joie en sa présence. Une des façons dont nous pouvons remercier Dieu en cette action de grâce est de chanter pour lui. Pensez maintenant aux premiers chrétiens. C'est tellement incroyable. Mais saviez-vous que beaucoup d'entre eux, alors qu'ils étaient emmenés dans l'amphithéâtre pour être dévorés par les lions, devinez quoi? Ils chantaient. Pouvez-vous imaginer cela? Être emmené pour être tué par des lions. Et pourtant, que faisaient-ils? Ils chantaient des louanges à Dieu. Quelle façon incroyable de dire, « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Mais cela a également été un témoignage incroyable pour ceux qui regardaient, leur montrant qu'ils pouvaient faire confiance au Seigneur alors même qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. Ou je pense à Actes chapitre 16, où nous lisons que Paul a chassé un esprit d'une esclave qui avait la capacité de prédire l'avenir. Et lorsque les propriétaires ont réalisé que cela s'était produit et qu'elle n'avait plus ce moyen de gagner de l'argent, ils se sont énervés et Paul et Silas ont été amenés devant les autorités, puis battus et jetés en prison. Maintenant, réfléchissez-y. Imaginez que vous faites l'œuvre de Dieu et que vous êtes battus et jetés en prison. Mais voici le truc. Comment Paul et Silas ont-ils réagi? Voici quelque chose que je veux que vous écriviez si vous ne l'avez pas encore écrit. E plus R égale O, E plus R égale O, le E représente l'événement ou ce qui s'est passé. Le R représente la réponse ou notre réponse et le O représente le résultat. Il y a beaucoup de choses dans la vie, le E sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Amen. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Mais nous en avons un. Avoir le contrôle sur le R. Chuck Swindell a dit un jour que la vie est N. Je suis désolé. La vie est composée à 10% de ce qui vous arrive et à 90% de la façon dont vous réagissez. Vous voudrez peut-être l'écrire également. La vie est composée à 10% de ce qui arrive et à 90% de la façon dont vous réagissez. Comment Paul et Silas ont-ils réagi à leur incarcération? Ils ont loué Dieu. Ils ont chanté au Seigneur. Et devinez quoi? Dieu a envoyé un tremblement de terre et à travers ce tremblement de terre, ils ont été libérés. Est-il possible que la louange ait le pouvoir de vous libérer de la prison dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Dans quelle prison êtes-vous aujourd'hui? C'est peut-être une prison émotionnelle. Peut-être la peur et l'anxiété. Peut-être la colère, l'amertume et le ressentiment. Peut-être une prison relationnelle, la solitude, un conflit non résolu. Vous avez ce conflit avec cette personne que vous allez voir cette semaine ou cette personne que vous allez voir pour les vacances et il y a juste ce conflit non résolu et vous voulez l'éviter. C'est peut-être une dette de prison financière. Point. Est-ce que c'est une prison émotionnelle? Est-il possible que par la louange le Seigneur vous libère? Et voilà le truc. Certains d'entre nous pensent, « Eh bien, je louerai Dieu quand il me libérera. » Non, vous louez Dieu en prison. Vous louez Dieu dans la tempête. Vous louez Dieu maintenant, en ayant confiance que c'est quelque chose que Dieu utilise pour libérer sa puissance dans votre vie. Dieu verra votre louange. Dieu verra votre foi et enverra la puissance du ciel et commencera à faire des choses que vous n'auriez jamais pu imaginer. Thanksgiving, c'est quoi? Thanksgiving, disons-le ensemble. Thanksgiving, c'est quoi? Donner. Et l'une des façons de marcher dans la foi est de louer Dieu en prison. Je ne dis pas que vous devez ignorer la réalité. Mais vous devez aussi simplement louer Dieu. Seigneur, je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Oui, ça fait mal. Mais je vais te louer. Je vais te faire confiance. Je vais avoir confiance à l'avance que tu es bon. Qu'un jour je serai capable de comprendre. En ce moment, je ne suis peut-être pas capable de comprendre. Je vais te louer. Je ne comprendrai peut-être pas avant 20 ans. Je ne comprendrai peut-être pas de ce côté-ci du rideau de l'éternité. Mais je vais vous faire confiance. La foi, c'est avoir confiance à l'avance en ce qui n'aura de sens qu'à l'envers. Le Seigneur n'a jamais dit que nous comprendrions tout. Nous ne le comprendrons pas. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, comment développer une attitude de gratitude? Quelle est la force de vos muscles de gratitude aujourd'hui? Ensuite, c'est par la prière. Dites la prière. Qu'est-ce que la prière?
La prière, c'est parler à Dieu. C'est écouter Dieu. John Knox a dit que la prière est une conversation familière et sincère avec Dieu. C'est familier. C'est quelque chose que vous faites régulièrement. C'est sincère. C'est authentique. Et la Bible dit dans Philippiens 4:6-7, « Ne vous inquiétez de rien. Maintenant, arrêtez-vous là. » C'est l'un des commandements les plus difficiles à obéir dans la Bible. Je lutte contre l'anxiété. C'est très difficile pour moi d'obéir. Mais il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation par la prière et la supplication. Maintenant, regardez bien ceci. Avec des actions de grâce, présentez vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au fait, si vous n'avez pas mémorisé ce passage de l'Écriture, ce serait formidable de le mémoriser. C'est un verset tellement incroyable à avoir dans votre cœur. Pour moi, ce qui est incroyable, ce n'est pas seulement ce que Paul a dit, mais où il se trouvait quand il l'a dit. Il était en prison. Il était en prison. À quoi ressemblait la vie en prison à cette époque? Eh bien, l'historien biblique John McCrae a dit, « L'emprisonnement romain était précédé d'un déshabillage puis d'une flagellation. » Une épreuve humiliante, douloureuse et sanglante. Saignante et non soignée, les blessures étaient imputables aux chaînes aux poignets ou aux pieds des prisonniers. Les vêtements mutilés et tachés de sang n'étaient pas remplacés, même dans le froid de l'hiver. La plupart des cellules étaient sombres, en particulier la cellule intérieure d'une prison comme celle que Paul et Silas habitaient à Philippe. Un froid insupportable, le manque d'eau, des locaux exigus, Une odeur nauséabonde provenant du peu de toilettes rendait le sommeil difficile et les heures de veille pénibles. À cause de cela, de nombreux prisonniers suppliaient pour une mort rapide. D'autres se sont tout simplement suicidés. Waouh ! Dans une telle situation, Paul écrit ce qu'on appelle l'épître de la joie. Ce que cela nous enseigne, voyez-vous, le bonheur dépend de ce qui vous arrive. Si les choses vont bien, je suis heureux. Le bonheur dépend de ce qui vous arrive. La joie ne vient pas, regardez bien, la joie ne vient pas des circonstances extérieures. Elle vient de votre relation et de votre connexion avec Jésus. Et Jésus peut vous donner de la joie en prison. Jésus peut vous donner de la joie dans une tempête. Il peut vous donner de la joie dans une situation difficile. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que nous devons remplacer l'inquiétude par la prière. Maintenant, combien d'entre vous savent comment s'inquiéter? Quelqu'un sait-il comment s'inquiéter? Ouais. Et si vous et moi voyons l'inquiétude comme un signe pour prier, c'est comme, merci, diable, de m'avoir rappelé de prier. N'est-ce pas? La Bible dit dans la Genèse, ce que tu as voulu faire de mal, Dieu l'a voulu de bien. Et nous avons ces pensées inquiétantes, et nous nous disons, merci, diable, je vais maintenant prier à ce sujet. Merci de me rappeler de prier. Certains d'entre nous s'inquiètent tellement. Transformons cela en quelque chose de bien. L'antidote à l'inquiétude est la prière. Inquiétez-vous moins, priez davantage. Déchargez-vous de vos fardeaux sur le Seigneur. Vous commencez à vous inquiéter. Père, aide-moi. Maintenant, en plus, il est dit que nous devons lier nos prières à l'action de grâce. Dites à Dieu ce pourquoi vous êtes reconnaissant. À quelle fréquence pensez-vous simplement à ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Maintenant, au moins deux fois par jour, je fais une liste de gratitude. Pourquoi? Parce que je veux entraîner mon cerveau, c'est comme un muscle, à être une personne reconnaissante. À quelle fréquence pensez-vous simplement à ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Voyez-vous, la véritable paix ne se trouve pas en ignorant les défis ou en recherchant de bons sentiments. Elle vient simplement du sentiment que Dieu a le contrôle. Je vais faire de mon mieux, dans la prière, pour assumer mes responsabilités, mais je vais simplement confier le résultat au Seigneur. En fait, Jésus a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. Voyez-vous, lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons être calmes dans un embouteillage. Nous pouvons être calmes pendant un appel téléphonique difficile. Nous pouvons être calmes au milieu d'une situation difficile. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le bateau avec nous. Dieu vous demande-t-il de moins vous inquiéter et de prier davantage? Maintenant, voici le truc. Quand il s'agit de prier avec gratitude, il ne s'agit pas tant de remercier Dieu pour la situation, mais de remercier Dieu dans la situation, ce n'est pas de le remercier pour ce problème de santé. C'est de le remercier dans ce problème de santé. Ce n'est pas de le remercier pour cette mauvaise journée. C'est de le remercier dans cette mauvaise journée. Ce n'est pas de le remercier d'avoir été blessé. C'est de le remercier d'avoir été blessé. Seigneur, je ne comprends pas cela. Je n'aime pas cela, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu fais ce que tu fais. Quelque chose dans l'histoire plus grande, l'histoire supérieure que je ne comprends pas dans l'histoire inférieure. Donc, je vais juste vous confier cela. Thanksgiving, c'est vivre en étant reconnaissant. Maintenant, quelque chose que j'ai lu il y a quelque temps s'appelait la prière de gratitude. Et voici la prière de gratitude. Pour chaque demande, dites deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. D'accord? Alors vous dites, Seigneur, aide-moi avec ça. C'est une demande. Et puis deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc le ratio est de 1 pour 2. Alors peut-être que c'est ça. Seigneur, s'il te plaît, capture le cœur de mes enfants et amène-les à une connaissance salvatrice de toi. Peut-être que tes enfants ne suivent pas le Christ en ce moment. Et c'est ta prière. Seigneur, aide mes enfants à venir à toi. Et merci de ne jamais m'abandonner. Et merci de m'avoir donné de l'eau potable à boire. Voyez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu, mais aussi de le remercier. Alors répétez après moi. Thanksgiving. C'est rendre grâce.
Maintenant, voici la dernière façon. C'est de partager notre témoignage. Donc plus tôt, nous avons parlé de la façon dont Paul et Silas étaient en prison, mais que Dieu les a libérés par la louange. N'est-ce pas intéressant de réfléchir au concept de louer Dieu en prison? Qu'est-ce que louer Dieu? c'est se concentrer sur sa bonté. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai senti le Seigneur me dire, Steve, arrête de te concentrer sur les imperfections des gens et commence à te concentrer sur mes perfections. Et sur quoi te concentres-tu? Sur les imperfections des gens. Ou sur les perfections de Dieu? Et lorsque vous vous concentrez sur les perfections de Dieu, vous le louez. Vous lui faites confiance. Et Dieu peut utiliser cette louange pour vous libérer de la prison dans laquelle vous vous trouvez peut-être. C'est intéressant parce que Paul et Silas sont encore en prison. Et que font-ils? Ils louent Dieu. Ils chantent et que se passe-t-il? Dieu les libère, n'est-ce pas? Regardez bien. Ils n'ont pas utilisé leur liberté comme un moyen de s'échapper. Ils ont utilisé leur liberté comme une plateforme pour parler de Jésus aux gardes. Ils n'ont pas utilisé leur liberté comme un moyen de s'échapper. Ils ont utilisé leur liberté comme une plateforme pour parler de Jésus aux gardes. N'est-ce pas puissant? Dans Actes 16h27, il est dit. Le geôlier se réveilla en voyant les portes de la prison ouvertes. Il tira une épée et était sur le point de se suicider parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient échappés. Dans cette culture, un geôlier était responsable du prisonnier, et s'il s'échappait, il était tué. Donc, ce type allait se suicider parce qu'il pensait qu'il s'était échappé. Verset 28, mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » N'est-il pas intéressant que ce geôlier ait vu Paul et Silas et leur foi et se soit dit, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Puis ils annoncèrent la parole du Seigneur à Paul et à tous les autres qui étaient dans la maison. À 7 heures de la nuit, le geôlier les prit, lava leurs plaies. Puis, aussitôt, il fut baptisé avec toute sa famille. Le geôlier les fit entrer dans la maison, leur servit un repas et fut rempli de joie parce qu'il avait cru en Dieu, lui et toute sa famille. Je trouve très intéressant que Paul et Silas, lorsqu'ils ont été libérés, ne se soient pas échappés. Ils se sont dit, « Je vais témoigner de ce que Jésus peut faire dans votre vie. » Une autre façon de remercier Dieu en cette fête de Thanksgiving, c'est de dire aux autres ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je suis reconnaissant parce que Jésus a fait cela dans ma vie. Que Jésus ait fait cela dans ma vie. Ésaïe dit, remerciez le Seigneur, louez son nom. Annoncez au monde son amour merveilleux et sa puissance. Alors, remercier, c'est quoi? Dire avec moi. Remercier, vivre. Et l'un des principes les plus importants pour être une personne plus reconnaissante, c'est de se rappeler qu'il ne s'agit pas tant de rendre grâce pour les circonstances, mais de rendre grâce dans les circonstances. Corrie Ten Boom et sa sœur Betsy étaient prisonniers d'un camp de concentration nazi et ils étaient dans une cellule d'horreur. Ils étaient dans une cellule de faim. En fait, leur cellule, vous voyez le tableau, je veux dire, ce n'est pas le Ritz. Ils sont dans un camp de concentration nazi. Il était surpeuplé et infesté de puces. Pouvez-vous imaginer cela? Mais ils ont réussi à faire passer clandestinement une Bible. Et un jour, alors qu'ils lisaient la parole de Dieu, ils sont tombés sur un Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Levez maintenant les yeux un instant. Vous dites, Steve, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Je sais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Je viens de le lire. Rendez grâce en toutes circonstances. Betsy a donc pris ce verset au pied de la lettre et a commencé à remercier Dieu pour les puces. Au début, Corrie s'est dit, « Pas question. Je ne remercierai jamais Dieu pour ces puces. Elles me rendent la vie impossible. » Mais elle s'est jointe à eux et tous les deux ont commencé à remercier Dieu pour les puces. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu organiser des études bibliques et que de nombreuses femmes ont eu la foi en Christ. Elles ont organisé des réunions de prière. Elles ont organisé des études bibliques. Et un jour, elles se sont dit, « Pourquoi les gardes ne viennent-ils pas ici ? » Vous savez, si ces gardes étaient venus, elles se seraient arrêtées. Elles auraient sorti cette Bible de là. Elles auraient arrêté ce qui se passait. Mais plus tard, elles ont découvert la raison pour laquelle les gardes ne sont jamais venus. Et cette raison, c'était les puces. ce qu'elles méprisaient autrefois, elles se sont rendues compte qu'il s'agissait d'une bénédiction déguisée. Elles remercient Dieu pour ces puces. Quelles sont les puces dans votre vie? Je n'ai pas dit de les regarder. Certains d'entre vous se disent, je n'ai pas dit de les regarder. Est-il possible qu'un jour vous regardiez en arrière et dire, Dieu merci pour ces puces. Les gars, c'est ça la foi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, sachant qu'il aplanira tes sentiers. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable, si tu ne relâches pas. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. Même en prison infestée de puces, il remercie Dieu. Puissions-nous, toi et moi, non seulement célébrer Thanksgiving cette année, mais aussi pratiquer l'action de grâce. Prions. Père Céleste, j'élève simplement ton Église bien-aimée aujourd'hui, et je ne veux pas humilier comme si certaines de ces situations n'étaient pas difficiles. Je sais que certaines d'entre elles sont vraiment difficiles et éprouvantes. Et Dieu, je te remercie que ta grâce soit suffisante. Sois là pour eux, Seigneur. Aide ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Et Seigneur, je prie simplement pour que cette année tu manifestes une attitude de gratitude. Dieu, aide-nous à chanter ta bonté. Dieu, pour certains d'entre nous, aide-nous simplement à te louer. Dans la prison de l'angoisse, la prison de la solitude. Aide-nous à te louer en prison comme un acte de foi. Seigneur, aide-nous à combiner notre prière avec l'action de grâce. Seigneur, aide-nous à témoigner de ta bonté. Seigneur, aide-nous à abandonner l'illusion du contrôle. Et à nous joindre à toi, celui qui a le contrôle ultime. Seigneur, nous abandonnons notre finitude à ton infinité. Aide-nous à te faire confiance. Seigneur, aide-nous à ne pas nécessairement être reconnaissant pour cette circonstance, mais à être reconnaissant dans cette circonstance, même en te remerciant pour les puces. Nous t'aimons et nous te louons. Nous te le demandons en ton nom, et tout le monde a dit « Amen ». Amen. Nous allons maintenant adorer le Seigneur à travers nos dîmes et nos offrandes. Avant de le faire, je voulais juste mettre en avant l'un de nos ministères. Saviez-vous que nous avons un ministère dans notre église qui s'appelle le sport? Et c'est un ministère d'environ 10 étudiants qui ne sont peut-être pas adaptés au sport traditionnel, mais qui excellent dans les jeux vidéo. Et le pasteur Cameron dirige ce ministère. C'est un programme sportif de niveau universitaire avec des entraînements hebdomadaires le mercredi soir à l'église et des compétitions le jeudi dans une ligue officielle avec des championnats d'État et nationaux. Nous avons créé ce ministère pour donner aux étudiants un lieu d'appartenance et, en fin de compte, une opportunité de rencontrer Jésus. Nous avons donc pensé vous faire connaître cet incroyable ministère. Et n'oubliez pas que lorsque vous donnez, vous soutenez des ministères comme celui-là. Nous allons afficher à l'écran quelques-unes des différentes façons dont vous pouvez donner au Seigneur. Merci beaucoup pour votre générosité. Les huissiers viendront dans quelques instants pour recevoir vos dîmes et vos offrandes. Nous vous louons, nous vous adorons et nous vous adorons. Toi, nous te le demandons en ton nom, et tous dire, Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'une des choses dont nous avons parlé est de remercier Dieu en témoignant de ce qu'il a fait dans votre vie. Et nous allons terminer le service d'aujourd'hui avec ce témoignage incroyable. Regardez ça.
Je veux partager une histoire qui fait partie de ma vie et j'espère qu'elle vous encouragera. En août 1985, un intrus non invité est entré dans notre maison lorsque ma femme Kate a été diagnostiquée d'un cancer. Cela a entraîné 9 années de rémission, de rechute, de rémission, de rechute, etc. Pourtant, pendant cette période, Dieu nous a été fidèles de bien des façons et nous avons beaucoup vécu. En février 1995, Kate est rentrée chez elle pour être avec le Seigneur. Cela nous a permis, à moi et à mes 3 garçons, de continuer à marcher ensemble. Nous avions des cicatrices. Ce n'était pas facile, mais nous avons beaucoup vécu, et Dieu est resté fidèle. J'ai continué à diriger notre famille, à pratiquer la médecine et à siéger au conseil de l'Église. En 2006, mon plus jeune a obtenu son diplôme d'études secondaires et je suis devenu un nid vide. Cependant, au cours de ces années, j'avais porté en moi une tristesse et un chagrin. J'avais appris, du moins c'est ce que je pensais, à refouler ma douleur, à rester occupé et à afficher un air de joueur. Certains d'entre vous peuvent peut-être comprendre. En décembre 2006, j'assistais à une conférence à Orlando, en Floride. Il y avait plus de 25 000 personnes. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir seul dans un groupe, un grand groupe? Moi, oui. Ce samedi soir-là, je suis retourné dans ma chambre et j'ai décidé de sauter la session du matin et d'aller à l'église. Le pasteur prêchait ce jour-là, car c'était quelques semaines avant Noël, et il a raconté que Marie avait reçu la visite d'un ange et qu'on lui avait dit qu'elle porterait l'enfant Jésus, ce qu'elle a fait. À la fin du sermon, il a changé de sujet et a dit « Maintenant, certains d'entre vous dans cette assemblée ont eu des espoirs et des rêves, et ils ont été brisés, et vous vous demandez s'il vous sera jamais possible de continuer à vivre comme vous l'espériez. » Il a ensuite ajouté « Nous avons des partenaires de prière à l'avant de cette église. Je vous invite, si vous le voulez bien, à venir. » Étant seul et ne connaissant personne, personne ne savait que je faisais partie du conseil de l'église. Je suis sorti et je me suis avancé, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je me suis approché d'un couple de personnes âgées. La femme m'a regardé et m'a dit « Comment puis-je prier pour vous ?» J'avais les larmes aux yeux, je bégayais, mais j'ai finalement réussi à dire quatre mots. « Je suis tellement triste. » Eh bien, par chance, son mari était très dur d'oreille. Il a dit « Quoi ? Qu'a-t-il dit ?» Elle l'a regardé et a dit « Il dit qu'il est triste. » « Oh, quoi ? Qu'a-t-il dit ?» Et pour la troisième fois, elle a dit « Il dit qu'il est triste. » D'une voix que je soupçonne que les 10 premiers rangs pouvaient facilement entendre. Puis ils ont prié pour moi. Une simple prière bienveillante pour tous les deux. Et alors qu'ils terminaient, l'église était déjà en train de se séparer. Je les ai remerciés. Je suis sorti. Et tandis que je sortais sous le soleil d'Orlando dans les arbres, j'ai réalisé que j'étais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon moral était élevé. J'ai senti que le Seigneur m'avait rencontré là, me renouvelant et soulageant mon chagrin prolongé. Louez-le. Un an et demi plus tard, j'ai rencontré la pasteur Julie. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Et le 14 avril, nous fêterons notre 14e anniversaire. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Il y a une phrase dans Jacques 5:16 qui dit « Priez les uns pour les autres ». Je veux simplement vous encourager à ne pas avoir peur ou à demander la prière si vous portez des fardeaux de quelque nature que ce soit, la santé, la blessure, la perte ou la douleur. Chaque dimanche, dans notre église, le pasteur nous dit qu'il y a des partenaires de prière à l'avant. Ils aimeraient prier avec vous. Vous n'avez pas à porter tout cela tout seul. Demander la prière n'est pas un signe de faiblesse. C'est un moyen de maintenir le bien-être spirituel. Cette prière à Orlando il y a 29 ans me réconforte encore aujourd'hui. Applaudissons le Seigneur. N'est-ce pas une belle histoire? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux juste vous encourager aujourd'hui à passer du temps en cette fête de Thanksgiving à témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Nous inviterons des amis ici pour prier avec vous si vous souhaitez que quelqu'un prie avec vous la semaine prochaine. Nous faisons le deuxième message de cette série sur la gratitude, car la gratitude est si importante. J'aimerais donc vous inviter à revenir la semaine prochaine et vous remercier beaucoup d'avoir adoré avec nous. Maintenant, puissiez-vous aller dans la grâce et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde a dit « Amen ». Passez une bonne semaine.